Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est toujours un grand privilège pour nous d'ouvrir le Saint-Livre, de le faire tous ensemble. Dans ces quelques instants, nous voulons le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sérieux, avec le cœur grand ouvert. Et je voudrais vous inviter à faire une première lecture avec moi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18. Premier livre de Samuel, au chapitre 18. Alors je préfère vous le dire en avance, je vais vous harceler de versets. Non ? Ça sera jamais trop ? Bon, tant pis pour vous, vous l'aurez dit. Donc voilà, je vous encourage, si ça vous intéresse, de pouvoir reméditer, de prendre les notes. Je vais essayer, tant se faire se peut, de vous citer le maximum et de ne pas oublier surtout de vous donner la référence pour que vous puissiez le lire chez vous. Voilà, et certains, on va les lire ensemble comme nous allons le faire ici dans 1 Samuel chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi », mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. On va lire d'autres textes, mais déjà dire que David, cet homme qui a été choisi par Dieu, a connu dans sa vie de grandes bénédictions et de grandes délivrances. Nous nous rappelons ensemble particulièrement le géant Goliath, toutes ses victoires. Et il a connu aussi, David, beaucoup de souffrances dans sa vie, beaucoup de tumultes, parfois même dus à ses victoires qu'il avait acquises, comme on le voit dans ce texte où les femmes chantaient « Saül a frappé 6 000, David ses 10 000 ». Et Saül a été jaloux de la position de David. David, cet homme qui a été choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël, a connu dans sa vie des temps de souffrance, en particulier quand il a été contraint dans cette situation de fuir devant Saül. Mais comme nous le verrons aussi, il a été obligé de fuir devant son propre fils Absalom. Beaucoup de temps dans la vie de David, quand nous avons le temps de l'éplucher, de voir que oui, Dieu l'a énormément béni, Dieu lui a donné de vivre de grandes victoires, mais aussi des moments de grande souffrance et de grandes difficultés. 1 Samuel chapitre 19, toujours dans le même contexte, 1 Samuel 19 verset 8. La guerre continuait, David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors, le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Amen. Devant fuir, devant une menace de mort. C'était une question de vie et de mort. Voir que David, dans des circonstances très difficiles, douloureuses, pénibles, il faut relire ces quelques chapitres qui entourent le chapitre 17, 18 et 19 pour voir combien la souffrance était profonde de la part dans la vie de David. Il y a aussi ce contexte avec son fils Absalom que je voudrais lire avec vous dans 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Voilà, j'ai pris ces 3 passages pour qu'on se rende compte dans ce préambule que David est un homme qui a connu beaucoup de luttes et de souffrances dans sa vie. Tout ce contexte de la révolte d'Absalom, nous lisons juste au verset 13, 2 Samuel 15, verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Rien que cette phrase, vous imaginez la souffrance, un homme qui a été choisi par Dieu, ouin roi d'Israël, Et là, le cœur des hommes d'Israël qui se détourne vers son propre fils Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons !» Voyez encore une fois la fuite. « Car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » C'est vrai que nous lisons ces versets, on n'est pas forcément dans la situation et dans le contexte, on n'est pas là en tant que réalisateur pour écrire un film, mais c'est vrai que ce sont des moments de grande détresse, de grande souffrance. Et pourquoi je vous ai cité ces quelques passages? Alors, ils sont rappelés aussi dans les psaumes, et je voudrais les lire avec vous dans le psaume 3. Ce contexte de la fuite devant Absalom est rapporté dans ce psaume 3, parce que petit à petit, nous allons considérer la confiance que David avait en l'Éternel, son Dieu. Psaume 3, juste les trois premiers versets. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Regardez le psaume 59. Psaume 59. Là, on revient dans le contexte où Saül cernait la maison pour faire mourir David. 59, les quatre premiers versets, « Au chef des chantres ne détruit pas. » Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Amen. » J'ai voulu relire un petit peu ces quelques versets et aussi, au travers de ces psaumes, voir ce qu'il y avait dans le cœur de David dans ces moments terribles. Pourquoi ? Parce que je veux relire un verset avec vous, c'est le psaume 23. Nous l'avons lu la semaine dernière et je voudrais juste lire le premier verset avec vous. Est-ce qu'on peut lire deux dimanches de suite des versets? C'est possible? Comment le Seigneur nous a encouragés la semaine dernière à prendre soin de notre âme. Et ce premier verset était là sur mon cœur. Psaume 23, verset 1er. Après tout ce que nous venons de lire, lisons ce verset ensemble. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Extraordinaire. Des situations où il pouvait être privé de tout, pratiquement à deux doigts de perdre même la vie. Dans d'autres passages, nous voyons combien il a été en manque de nourriture, de plein de choses élémentaires même à la vie. Pourtant, David est un homme qui a une grande confiance, une absolue confiance en son Dieu, et son espérance est vraiment quelque chose de vivant en lui. Il peut déclarer, alors que nous, à la vue humaine, on dirait qu'il lui manque de tout, et lui, il confesse, l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire c'est le gardien de ma vie, c'est lui qui prend soin, je suis sous sa houlette, je ne manquerai de rien. Il a connu des privations en tout genre, il faudrait lire beaucoup de textes, mais il déclare qu'avec l'Éternel, son berger, il a tout ce qu'il lui faut, suffisant pour sa vie. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous ce matin? Peut-être quelqu'un pourrait dire, je manque de beaucoup de choses dans ma vie, je n'ai pas de travail. Peut-être quelqu'un pourrait dire, je n'ai pas d'argent. Quelqu'un pourrait dire, je n'ai pas de famille, pas de maison, pas de conjoint, pas d'église pour certains. Peut-être je n'ai pas la santé, etc. Et est-ce que moi aussi, je peux déclarer, comme David, L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Et que dire, mes frères et sœurs, de nos frères persécutés qui, au loin, sont parfois privés de tout et aussi à deux doigts de perdre la vie, de tous ceux qui manquent de tout, nos frères et sœurs par-delà le monde. Je me disais, en méditant ces quelques versets, vous savez, il n'y a pas deux psaumes 23. Un psaume 23 pour nous qui vivons une forme quand même d'abondance, abondance matérielle et physique, bien sûr. Il n'y a pas de psaume 23, un pour eux et un pour nous. Et il serait quand même, je pense que ça nous interpellerait beaucoup si nous étions à leur côté. Voilà, on peut imaginer, ils sont juste dans la salle à côté. Et que quand ils disent « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien », ils puissent le dire avec plus de force que ce que nous pouvons faire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce que David a vécu, nous pouvons nous aussi le vivre quotidiennement dans notre vie au travers de Jésus-Christ. On va le lire ensemble dans Jean au chapitre 10 et verset 10. Parce que nous aussi nous avons un berger. Jean chapitre 10 verset 10, ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit le Seigneur Jésus, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a un petit quelque chose qui a été rajouté, hein? Que le Seigneur a voulu pour nous ce matin. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Et c'est le titre de mon message ce matin, la vie en abondance. La vie en abondance. Le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est que nous avons besoin de considérer les uns et les autres, enfants de Dieu, racheté par Christ, que notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Un Dieu d'abondance. Dieu n'est pas limité. Les seules limites, c'est celles qu'il s'est imposées. Il ne peut pas pécher, il ne peut pas mentir, se renier. Il y a des limites qu'il s'est imposées par sa nature. Mais Dieu n'a aucune limite. À la fin de son épreuve, Job déclarera ceci, « Je reconnais que tu peux tout. Il tient tout dans sa main, le souffle de nos vies, tout ce qu'il a créé. Dieu n'est pas limité. Et lorsque nous réalisons les bontés de Dieu qui vont se manifester tant dans le domaine matériel que sur le plan spirituel, dans nos vies, autour de nous, quand nous considérons cela, nous voyons que Dieu ne fait pas dans la demi-mesure. Dieu est un Dieu d'abondance. Abondance d'amour, cela a été rappelé encore ce matin dans les louanges. Abondance d'amour, la croix du calvaire, le pain que nous avons rompu, ce vin qui nous rappelle le corps de Jésus-Christ qui a été brisé à la croix du calvaire. Si quelqu'un ce matin n'avait pas encore réalisé que le Dieu que nous professons ici dans ce lieu est un Dieu abondant, en amour, en miséricorde, abondant en pardon. La parole de Dieu déclare ceci, l'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Il est plein de compassion dans le psaume 116 et le verset 5. Il est dit aussi que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. C'est ce que vous devez faire ce matin si vous ne l'avez pas encore fait. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Abondance d'amour, abondance de pardon. Il y a un cantique que l'on chante souvent, peut-être qu'on terminera avec tout à l'heure, mais peu importe, il y a des paroles extraordinaires, je pense souvent à ce cantique. Je ne sais pas si vous le connaissez, de la croix la grâce coule. comme un fleuve constamment. Venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde à tous, le ciel est ouvert. Nous devons réaliser combien notre Dieu est un Dieu d'abondance. Abondance en tout genre, nous le voyons dans la parole de Dieu. Un jour, l'Éternel s'adressera à David par la bouche de Nathan, vous savez, suite à cet adultère et aussi au meurtre qu'a commis David. Et Nathan va dire ceci à David, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint, roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. » 2 Samuel, chapitre 12, verset 7, verset 8. Un Dieu d'abondance, prêt à nous bénir. Nous devons réaliser qu'il n'a aucune limite. C'est l'abondance lorsque nous voyons le peuple d'Israël dans le désert. Laissez-moi vous citer ce verset. « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dieu, vous savez ce qu'il était même capable de faire? Il était capable de faire sortir de l'eau du rocher. Extraordinaire. Dieu n'a aucune limite. J'ai cité quelques besoins qui pouvaient être présents dans notre vie, que ce soit travail, que ce soit sur le plan relationnel, quel que soit le domaine où tu as l'impression, ou l'évidence même qu'il te manque des choses. Toi aussi, tu peux déclarer ce matin, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il est dit dans la parole, justement, à ce sujet de l'eau qui est sortie du rocher, il est dit ceci, « Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. » Il donna à boire comme des flots abondants. Psaume 78 et le verset 15. Mais c'est bien sûr autour de la personne de Jésus-Christ que nous allons découvrir l'abondance de Dieu. Vous vous rappelez la multiplication des pains et des poissons? Il est écrit ceci, « Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. » Un Dieu d'abondance. Pêche miraculeuse, il leur dit, là je vous ai cité, pardon, Matthieu 14, 20, Jésus leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Pêche miraculeuse dans Jean, chapitre 21 et le verset 6. Surabondance, nous pourrions dire ce matin, surabondance de la grâce par la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Romains 5 et le verset 20. Il y a aussi, autour de la personne de Jésus, nous devons le dire, abondance de guérison. Je parlais tout à l'heure de la santé. Il est normal et légitime, quand on est atteint dans son corps, d'avoir l'impression de tout perdre dans la vie. Et notre Dieu est un Dieu d'abondance aussi dans ce domaine-là. Il tient tout dans sa main. Il est dit ceci, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout. » Il guérit tous les malades. Matthieu 8, verset 16. Il y a abondance de vie au travers de la personne de Jésus-Christ. Jésus a déclaré, vous vous rappelez, dans cette rencontre avec la femme samaritaine, il dit ceci, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 14. Les versets ne manquent pas. Les témoignages de la parole ne manquent pas. Pour témoigner ce matin que notre Dieu est un Dieu d'abondance. J'en parlerai tout à l'heure dans un point particulier, mais il y a aussi au travers de Jésus-Christ l'abondance du Saint-Esprit Il est écrit ceci, « Dieu a répandu pardon, le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, dans Tite 3, verset 6. » On pourrait peut-être même résumer tout ce que nous venons de dire sur le ministère de Jésus avec cet autre verset de l'apôtre Paul qui dit ceci tout simplement, « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ dans Colossiens chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Comprendre ce que signifie « je donne la vie et je la donne en abondance », la vie en abondance, c'est toujours être imprégné dans notre vie. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, nous avons vu dans certains textes, je les ai pris exprès parce que ce sont des passages de la vie de David où il est prêt de perdre la vie. Ce sont des moments intenses pour sa vie. Et nous ne voulons pas minimiser la souffrance qu'il peut y avoir dans votre vie ce matin. Nous avons prié pour des frères et sœurs. J'ai parlé tout à l'heure des frères et sœurs qui sont persécutés. Nous ne pouvons pas minimiser la souffrance et toutes ces persécutions que nous pouvons vivre, parfois même à l'intérieur de notre chair. Mais nous ne pouvons pas pour autant minimiser l'abondance qu'il y a auprès de Dieu. Je voudrais lire un dernier verset sur ce premier point avec vous dans le psaume 65. Psaume 65, on va lire à partir du verset 9. Psaume 65, verset 9. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Verset 10, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Oui, Dieu est un Dieu d'abondance. C'est ce que je voulais rappeler dans ce premier point sur ce thème, la vie en abondance. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que la vie en abondance, c'est apprendre aussi quelque chose d'important dans notre vie. C'est d'apprendre le contentement. Vous savez, vivre pour Dieu, c'est avoir le meilleur des maîtres qui soit. Et cette abondance, il veut en faire profiter ses enfants mieux que ce que nous voulons faire nous pour nos propres enfants. Vous savez, des parents, pour leurs enfants, ils sont prêts à donner beaucoup. Il y a beaucoup d'abondance dans le cœur. Mais Dieu fait encore mieux. Il est écrit ceci, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent dans Matthieu au chapitre 7, verset 11. Et c'est vrai que si parfois nous semblons, je vais le mettre entre guillemets, priver nos enfants de certaines faveurs, reconnaissons ce matin, nous les enfants de Dieu, que Dieu, même si parfois il semble aussi nous priver ou reporter certaines choses, soyons pétris de cette pensée. C'est que Dieu fait ce qu'il y a de mieux pour notre vie. Si nous sommes capables de le faire pour nos propres enfants, méchants comme nous le sommes, à combien plus forte raison notre Père Céleste le fera pour chacun de ses enfants. Il est dit ceci, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein dans Romains, chapitre 8 et le verset 28. Il est tout à fait normal que chaque enfant de Dieu s'attende dans sa vie à ce que Dieu déverse sur sa propre vie l'abondance de ses bénédictions. Mais attention, attention aux faux évangiles de la prospérité où on a envie de nous faire croire que l'absence de prospérité dans notre vie signifierait que nous ne sommes pas dans le plan et dans le projet de Dieu. Il suffit de méditer le livre de Job, ou alors pour défendre cette théorie, il faudrait carrément enlever le livre de Job de la Bible, et tant d'autres passages. La brebis du Seigneur, elle a ceci de particulier, c'est que dans le désert, dans l'abondance, quelle que soit la condition dans laquelle elle est, la brebis du Seigneur, elle est pleinement satisfaite de sa condition. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle sait que le berger qui conduit sa vie, il est prêt à tout pour elle, jusqu'à donner sa vie. C'est ça, c'est cette pensée qui pétrit notre cœur. Jésus a dit, à la suite du verset que nous avons lu tout à l'heure, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis » dans Jean chapitre 10 et le verset 11. Apprendre le contentement. La situation dans laquelle je suis, que Dieu permet, qu'elle semble favorable ou défavorable. Vous savez, quand on regarde le chemin d'une vie, on voit qu'il y a des moments de réjouissance, des moments de victoire, des moments de grande bénédiction dans notre vie. Je parle sur l'aspect physique et matériel de nos vies. Mais il y a aussi des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de difficulté, des moments où on a l'impression qu'il nous manquerait tout. Et nous pouvons déclarer qu'avec Jésus pour berger, nous ne manquons de rien. C'est ça, apprendre le contentement. Lisez avec moi dans Philippiens chapitre 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. Dans l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Amen. J'ai appris à être content. Nous avons besoin d'apprendre, l'apôtre Paul a eu besoin de l'apprendre, ce qu'on peut appeler le contentement. La brebis du Seigneur, quand elle est dans le troupeau, elle est satisfaite dans la condition dans laquelle le Seigneur l'a placée. Regardez 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. Ce sont des versets que nous connaissons bien. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et vous pouvez dire amen. Oui. La vie en abondance, c'est réaliser que notre Dieu est un Dieu d'abondance, qui n'est limité par rien. Et c'est un Dieu qui veut nous apprendre jour après jour aussi. En tout cas, nous devons nous faire ces efforts-là, en tout cas, pour apprendre cette satisfaction. Vous savez, le diable, il fait tout pour nous tromper. Et si on prend garde cette image, vous savez, de la brebis dans le troupeau, nous avons l'impression des fois, vous savez, quand on est dans l'abondance de la grâce, j'ai l'impression que parfois le diable, c'est un petit peu comme s'il mettait des lunettes, vous savez, sur les brebis. Et parce qu'on a toujours ce réflexe de voir que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, vous savez. Et le diable voudrait nous tromper. Mais la brebis du Seigneur, elle sait que dans le troupeau, dans le pâturage, auprès du Seigneur, elle ne manque de rien. Elle est pleinement satisfaite. Elle apprend le contentement. La troisième chose que je voudrais dire sur la vie en abondance, c'est une vie qui est débordante de joie et de paix. Nous dirons tout à l'heure que c'est la vie débordante en toutes choses, notamment le fruit de l'esprit. Mais j'insiste sur une vie débordante de joie et de paix. Pourquoi ? Parce que ce que nous venons de dire sur le contentement ne signifie surtout pas que nous devons vivre une forme de résignation ou une forme de fatalité. Bon, finalement, je suis dans la condition que le Seigneur. Non, ça signifie pas du tout cela. Nous devons être totalement submergés de la vie de Christ dans la condition dans laquelle nous sommes, en nous, pour que nous puissions toujours être dans une grande joie et une grande paix. C'est pas du fatalisme, c'est pas de la résignation, mais je suis vraiment heureux, je suis rempli de sa joie, je suis rempli de sa paix, même dans le plus grand dénuement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nos frères et sœurs persécutés, parce que j'ai l'impression parfois que l'abondance de nos richesses matérielles nous éloigne de l'essentiel. Parce que quand David dit « je ne manquerai de rien », il parlait bien sûr, pas évidemment, de toutes ces richesses, de cette abondance physique et matérielle que nous pouvons connaître, parce que finalement, elle ne fait que nous éloigner de Dieu. Mais il parlait de l'abondance, de la paix, de la confiance, de la joie, l'abondance de l'état de mon âme. Prospérité pour mon âme, c'est ça l'essentiel pour notre vie. On peut être, ce qui est important, c'est cette grande joie, cette grande paix dans sa présence, même si nous sommes dans le plus grand dénuement. Nous pouvons manquer de tout, a priori à vue humaine, mais si je suis dans la présence de Dieu, je serai inondé, débordant de joie, débordant de sa paix, alors que je peux avoir tout ici-bas sur la terre, mais éloigné de lui, être le plus malheureux. Il suffit de voir tous ceux qui, d'ailleurs, ont tout, qui se suicident, qui sont malheureux. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie, elle soit parfaite. Abondance de joie auprès du Seigneur. Il est dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, abondance de paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Personne n'y comprendra rien. Que vous puissiez louer, bénir, être heureux dans la condition peut-être dans laquelle vous vous trouvez, mais elle aura du sens, parce que vous pourrez dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis sans emploi, j'ai des soucis de santé, j'ai envie d'un conjoint, je suis sans lui. Mais qu'importe la situation dans laquelle je suis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette question, vous savez, de vie en abondance, elle dépasse de très loin le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre bien-être physique et matériel. Il s'agit de la prospérité de notre âme, de cette nouvelle vie en Jésus-Christ qui doit grandir et se développer, cette nouvelle vie qui nous transporte jusque dans le ciel, notre destinée. Il est écrit ceci, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils étaient au milieu de la prison dans Actes 16, verset 25, et ils priaient et ils chantaient les louanges de notre Dieu, la preuve d'une vie débordante de joie et de paix, même au plus fort de l'épreuve. Mais à l'inverse aussi, je parle de la situation du dénuement, de l'épreuve, de tout ce qui peut nous manquer à vue humaine. Mais vous savez, à l'inverse aussi, c'est important de le signaler, dans la prospérité matérielle et physique que Dieu peut nous accorder, il est essentiel aussi que nous vivions dans une attitude débordante de joie et de paix, même au milieu de l'abondance matérielle. Voici ce que dit l'Écriture, voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Que je sois dans le dénuement le plus complet, dans ce qui peut apparaître comme le besoin les plus vitaux même de notre vie, ou que je sois dans l'abondance, qu'importe. Je dois dire avec la même force, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ma vie, elle est débordante de reconnaissance, elle est débordante de joie et de paix. C'est ça, la vie en abondance. Et je terminerai par ce quatrième point, la vie en abondance. C'est une vie qui est remplie de l'Esprit. J'ai déjà cité ce verset. Dieu a répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. dans Tite 3, verset 6. Et je voudrais lire avec vous dans Jean au chapitre 7, lisons-le ensemble, Jean chapitre 7, et au verset 37, au verset 39. Nous connaissons bien ces versets. Il est dit ceci, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La vie en abondance, c'est une vie remplie de l'Esprit Saint. Et je voudrais relire avec vous dans Jean au chapitre 16 une parole extrêmement forte du Seigneur. Jean au chapitre 16. Vivre aux côtés du Seigneur Jésus ici sur la terre devait être quelque chose d'extraordinaire. Et on aurait raison de un peu de jalouser les disciples voilà, qui étaient auprès de Jésus. Mais Jésus va dire quelque chose d'extrêmement important. Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Regardez au chapitre 14, juste un petit peu avant. Jean 14, verset 16, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Notre corps, notre vie qui devient le temple du Saint-Esprit. C'est une parole extrêmement forte que le Seigneur Jésus adresse. Il vous est avantageux que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne dans votre vie, que de nos vies coule cette eau vive, que jaillisse cette vie en abondance que le Seigneur veut pour chacun de nous. Soyez remplis de l'Esprit, dit l'Écriture. Vous savez, c'est déjà merveilleux de recevoir par la nouvelle naissance la vie nouvelle, la nouvelle vie. Naître de nouveau. C'est déjà extraordinaire. Mais Dieu veut pour nous quelque chose d'encore plus excellent. Il veut une vie en abondance. Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Une vie pleine et remplie de l'Esprit de Dieu. Un fleuve d'eau vive qui jaillit de nos vies. C'est ainsi que nos vies débordantes, le fruit de l'Esprit, vous connaissez le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi dans Galates 5, verset 22. La vie abondante, c'est ce fruit de l'Esprit qui vit, qui déborde dans chacune de nos existences. Oui, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Et si nous devons apprendre ce contentement, se satisfaire de la situation, de la condition dans laquelle Dieu nous a placés, nous devons vivre notre vie avec beaucoup de ferveur, avec une vie débordante de joie, de paix, et surtout une vie remplie de l'Esprit, une vie où Dieu peut agir de manière qui dépasse même tout ce que l'on peut imaginer. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce que Dieu est capable de faire dans des situations les plus inextricables. Il y a des situations prises depuis des années. Il y a des choses, à un moment donné même, on peut le dire honnêtement, on se sent découragé. Vous êtes loin de vous imaginer comment Dieu peut vous surprendre. La Bible dit ceci, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Alléluia, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il faut conclure. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il n'est pas limité. Quelle que soit la condition dans laquelle je suis, je veux déclarer par la foi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis heureux, Seigneur, de la situation dans laquelle je suis. Et je crie à toi. mon espérance est en toi, parce que je sais que tu ne limitais par rien, par aucune situation. Et je sais que, rempli de ton esprit, ma vie va être une vie débordante. Que je sois dans la prospérité matérielle, que je sois dans le dénuement le plus complet. Je pensais beaucoup à nos frères et sœurs, vous savez, dans la persécution. Ça me faisait mal d'imaginer que ce verset « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » soit plus fort dans la bouche que dans la nôtre. Vous savez, la prospérité, c'est un danger pour nous éloigner de Dieu. Je conclus ainsi, la vie en abondance, c'est une vie totalement dépendante de Christ, comme la brebis auprès de son berger. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, dit l'Écriture. Il est là le principe pour nous dans Matthieu 6, verset 33, et aussi cet état d'esprit que nous devons garder. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On disait tout à l'heure que le ruisseau de Dieu était plein d'eau. Les bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité, mon Dieu, elle est grande. Dans Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 21, verset 23. Je vous le dis, mes frères et sœurs, vous, amis, ce matin, c'est auprès de lui qu'est la source de la vie. Aucune autre source n'est valable. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, vous savez, le diable, il a vite fait, il met des lunettes sur nos yeux, nous, on a l'impression que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Mais c'est auprès de lui, et auprès de lui uniquement, qu'est la source de la vie. Je voudrais lire ce dernier psaume avec vous, dans le psaume 36. Psaume 36. Merci pour votre patience d'avoir ouvert le livre, le Saint-Livre, a plusieurs passages. Mais vous savez, enfin, quand on médite la parole de Dieu et quand on prépare un message, on n'aurait envie que de lire la parole de Dieu. Vous savez, elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Quand je préparais, il a fallu que j'enlève énormément de versets, un Dieu d'abondance, mais c'est impressionnant tous les qualificatifs. Quand on parle de l'esprit qui doit reposer sur les croyants, il y a tous ces adjectifs pleins, remplis. Mais l'abondance est là de Dieu pour nos vies, si toutefois, bien sûr, nous le recevons et nous l'acceptons. Psaume 36, verset 7, il est dit ceci. Psaume 36, verset 7. « Ta justice, elle est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme éternel. » Tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Éternel, notre Dieu, nous voulons ensemble te remercier pour ta parole. Merci de nous l'avoir donnée, merci de nous l'avoir laissée. Et donne-nous, Seigneur, cette ferveur chaque jour pour la méditer, pour la recevoir comme cette nourriture indispensable pour notre âme. Merci de nous rappeler encore ce matin que non seulement tu veux pour chacun d'entre nous la vie véritable, la vie éternelle, mais tu veux, Seigneur, que dès ici-bas, les uns et les autres, nous puissions vivre la vie abondante selon le dessein que tu avais prévu au travers de Jésus-Christ. Seigneur, pardon peut-être parfois pour tous les mécontentements de notre vie. Parfois, nous avons peut-être regardé à droite ou à gauche, espérant une situation meilleure. Seigneur, nous voulons, comme l'apôtre Paul, apprendre le contentement. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, nous voulons être fervents dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Seigneur, merci, parce que nous, humainement, nous ne sommes pas capables de vivre ces choses. Mais nous dépendons de toi, Seigneur. Nous voulons être comme cette brebis auprès du berger, qui reconnaît que tu fais le meilleur pour chacun de nous. Tu nous l'as prouvé à la croix du calvaire. Tu es prêt à donner ta vie tout ce que tu as de plus cher. Alors à combien plus forte raison, pour tous les besoins de notre vie, tous les besoins quels qu'ils soient, nous pouvons dire avec le psalmiste encore ce matin, oui, parce que tu es mon berger, Seigneur, je ne manquerai de rien. Merci pour toutes celles et ceux qui ce matin avaient besoin d'entendre ou recevoir une parole. Seigneur, je te prie que l'ennemi ne dérobe pas cette parole, mais que nous ayons cette sagesse les uns et les autres de garder notre cœur. Tu nous l'as redit encore la semaine dernière. Oui, nous voulons veiller attentivement à notre âme. Tu nous as nourris ce matin, Seigneur. Alors nous voulons garder cette nourriture. Et nous voulons surtout qu'elle produise cet effet dans nos vies, afin que nous puissions grandir en toi. Oui, Seigneur, nous prions pour que notre assemblée soit reconnue comme une assemblée satisfaite dans la condition dans laquelle elle est, te bénissant, te louant, glorifiant ton nom, dans quelque circonstance que ce soit, sachant que, Seigneur, tu n'es limité par rien. Tu es le grand Dieu qui a tout créé, qui a tout pouvoir, sur la terre comme dans le ciel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.